L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Chaque jour, ensemble, soyez encouragés dans votre foi par la prière, la parole et la présence de Dieu. Bonjour, bienvenue dans Prière inspirée. Demain, on partagera ensemble sur des femmes qui ont servi le Seigneur sans mari. On en parlera demain. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi ça. Ça va être une émission un peu étonnante, un peu différente dans ce qu'on va aborder, des textes assez particuliers. Je vais partager avec toi après la pensée du jour sur le célibat le plus coûteux de la Bible. Et avant ça, on va parler du veuvage d'Ézéchiel. Donc après, on parlera d'un vrai célibat. Mais dans cette pensée du jour, je vais partager avec toi sur Ézéchiel et le veuvage d'Ézéchiel. Et l'un des textes de l'Ancien Testament parmi les plus étonnants. Alors il y a plusieurs textes étonnants dans l'Ancien Testament, mais celui-ci aussi en fait vraiment partie. Et peut-être que tu l'as jamais lu ou que t'es passé juste par-dessus. Et c'est vrai que les prophètes de l'Ancien Testament ont payé un prix énorme pour être en fait des signes vivants, des signes prophétiques pour leur nation. C'est une alliance qui est différente de celle d'aujourd'hui. On est aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Dieu n'utilise plus ce genre de signes comme celui dont on va parler dans quelques instants. C'est vrai, Dieu utilise toujours des signes, et parfois des signes qui peuvent être étonnants, mais ça on ne le retrouve pas en tout cas dans l'histoire du Nouveau Testament, ni même dans l'histoire de l'Église, de ce que j'ai pu voir. Et c'est ce qui va se passer donc dans Ézéchiel chapitre 24, et on lit avec Marie ce passage.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleuras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ?
Wow, ça vraiment, si t'as voulu être comme Ézéchiel ou comme le prophète Jérémie dont on a parlé hier, peut-être t'as pas réalisé le prix qu'ils ont payé, et c'est un grand prix pour Ézéchiel. Tu imagines en fait, donc Ézéchiel était marié, il aimait sa femme. Dieu lui dit que c'est le délice de ses yeux, il devait aimer son épouse, il devait aimer le corps de son épouse, il devait aimer être avec elle, il devait aimer la regarder cuisiner, etc. Il devait aimer sentir sa présence à ses côtés. Peut-être même qu'il rêvait d'avoir des enfants, mais Dieu lui annonce que la même journée, sa femme va mourir, subitement. Alors c'est pour ça que j'ai préféré vraiment, en introduction, dire on n'est plus dans la même alliance, d'accord ? On n'est pas dans la même alliance. Et aussi, ne te compare pas au prophète Ézéchiel, qui a un livre dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est des fois les gens se comparent à des personnes, mais il n'y a pas de comparaison possible. Et dans cet appel très particulier aussi, avec une alliance qui est nationale à l'époque et pas une alliance qui est individuelle, c'est une alliance de la nation d'Israël. Donc Dieu l'a utilisé Ézéchiel et cette histoire de la perte de son épouse et avec cette demande du Seigneur de ne pas pleurer, de ne pas faire ce qu'ils étaient habitués à faire lorsque quelqu'un perdait quelqu'un, donc dans un deuil. Et il est en train de dire donc de la même manière que finalement que Ézéchiel a perdu sa femme et il va pas pleurer sa femme, il va continuer de vivre normalement. De la même manière, vous, peuple d'Israël, vous allez perdre le temple et vous n'allez pas pleurer sans pouvoir pleurer parce que vous êtes en train de récolter finalement le fruit de vos erreurs, etc. Le corps d'Ézéchiel va devenir un message. La vie d'Ézéchiel et l'âme d'Ézéchiel va devenir un message. Chaque fois que quelqu'un va voir Ézéchiel, à partir de ce moment-là, il se rappelle ce qui s'est passé. Et ça doit amener ces personnes, et ça devait amener ces personnes à la repentance et à s'approcher du Seigneur. Après cela, Ézéchiel va rester seul, veuf, célibataire. Il reste seul jusqu'à la fin de sa vie. Et son célibat, comme plusieurs, c'était pas un choix, mais c'était un sacrifice prophétique. Et je vais terminer cette pensée qui s'adresse à quelques personnes aujourd'hui. Si toi aussi t'as perdu ton conjoint, toi, t'as le droit de pleurer. Et tu dois passer par ce deuil. Plusieurs personnes essaient par la foi de ne pas passer par ce deuil. Et c'est comme une espèce de souffrance latente qui est là. Et Ils sont un peu en suspens. Mais je prie que s'il y a des larmes qui doivent couler, qu'elles puissent couler. Parce que ton veuvage, comme celui d'Ézéchiel, le fait de rester seul veuf, peut être un message aussi de la bonté, de la fidélité de Dieu lorsqu'on passe par ce moment où on perd quelqu'un qu'on a aimé. J'aimerais prier, on va prendre un chant. J'aimerais prier pour toi qui passe par ce temps difficile ou qui est passé tout dernièrement par cette perte. Ça peut être aussi quelqu'un que tu as perdu dans ta famille, un enfant ou quelqu'un. Bien sûr, perdre un enfant comme ça jeune, c'est pas la volonté du Seigneur. Et ça s'accumule aussi, le fait que ce soit pas, on sait que c'était pas ce que le Seigneur voulait, ça peut encore augmenter la souffrance et la difficulté de vivre et de passer par de tels moments. Père, je prie que ton peuple soit consolé. Je prie que ce frère, que cette sœur soit consolée. Il y a des gens qui vivent avec cette souffrance du veuvage, de la perte pendant tant de temps, tant d'années. Je prie, Père, qu'il y ait des larmes qui coulent, mais que ces larmes amènent la guérison et la restauration totale dans le nom du Seigneur. Père, nous voulons ensemble te glorifier, tourner nos yeux vers toi. Nous tournons nos yeux vers toi, Jésus-Christ.
Je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Oh Jésus, il n'y a pas de plus beau nom.
Oui, dis-lui Jésus.
Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux.
Consolation.
Tu es si merveilleux.
Père, je prie que ces larmes puissent couler, mais après que tu puisses sécher ces larmes. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur quelqu'un. Tu es resté longtemps dans la souffrance de la perte, mais le Seigneur te donne comme un nouveau vêtement, c'est comme une nouvelle carapace, une nouvelle peau. Et ça va tout changer. Tu étais comme dans une maison dont les vitres étaient si ténébreux, si sale, que tu ne voyais plus la lumière passer à travers, et le Seigneur vient nettoyer cela. Il vient laver, afin que tu puisses à nouveau sourire et rire. Le Seigneur te dit, tu vas rire. Tu vas rire à nouveau. Je te loue, Seigneur. Reçois-le comme une parole du Seigneur. Tu vas rire à nouveau. Ah, et quelqu'un dit, mais comment je pourrais encore rire? Tu vas rire à nouveau, reçois-le dans le nom du Seigneur. Amen. Alors on va parler maintenant d'une autre histoire aussi étonnante. Je partage avec toi le célibat, pour moi, le plus coûteux de la Bible. Et on va partager ensemble sur la vie de Daniel. Daniel, on connaît ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, va être déporté alors qu'il va être adolescent. Et on lit ce passage avec Marie dans Daniel, au chapitre 1, dès les premiers versets, au verset 3 et 4.
Le roi donna l'ordre à Akpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens.
Amen. Alors donc Daniel est confié au chef des eunuques. Au chef des eunuques. Et quand on regarde hein, comment bien les rois et les chefs d'eunuques, comment les choses se passaient à l'époque, hein, eh bien, elles se passaient toujours de la même manière. C'était d'ailleurs une pratique babylonienne. C'était de castrer les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes captifs de haut rang pour servir au palais. Il est vrai que la Bible ne va pas mentionner la castration, etc. Elle est, j'allais dire, sous-jacente. Ça fait partie de ces choses-là. Et la Bible aussi ne va pas toujours nous partager toutes les histoires et tout le contexte. Il y a des films qui peuvent nous aider. Chosen peut nous aider en partie à imaginer, bien que malheureusement, il y a des choses qui sont ajoutées, bien sûr, et qui ne correspondent pas au texte biblique et à la doctrine biblique aussi. Mais c'était, et d'ailleurs, dans la tradition, que ce soit juive, au niveau de la théologie, tous considèrent, bien sûr, que David était eunuque au sens physique. Daniel, c'est l'exemple du célibat forcé par mutilation. Et même si peut-être tu as trouvé ça un peu étonnant, mais je crois que ça va parler aux uns et aux autres d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu aurait pu faire un miracle, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Alors le contexte, c'est que à Babylone, les jeunes garçons de familles royales ou de familles nobles, des nations qui étaient conquises, des adolescents jeunes entre 12 et 16 ans, étaient amenés donc et ils étaient, comme on l'a lu, sans défaut physique, beaux de figure et ils étaient doués de sagesse. On les prenait en général avant ou au début de la puberté parce qu'en fait ils avaient une meilleure possibilité de survivre et de s'adapter aussi physiquement et psychologiquement à cette nouvelle façon de vivre. Pourquoi les Babyloniens le faisaient alors que on allait donc avec les eunuques pour servir le roi? Alors c'est sûr que c'était pour éliminer toute possibilité de menace dynastique. Un eunuque ne pouvait pas prendre la place alors qu'il était très haut placé. Il y aurait pas de descendance, etc. Il avait aussi accès au harem du roi et donc le roi était sûr qu'il y aurait pas de problème avec ses épouses, avec ses concubines. C'est aussi une confiance absolue. Il y a pas de famille, donc il y a pas d'intérêts rivaux. La loyauté garantie et parfois aussi c'était pour l'humiliation symbolique du roi qui avait conquis l'autre royaume. Alors, les méthodes de castration, et c'est, j'ai fait le choix d'en parler, c'est pour montrer en fait l'impact dans la vie de Daniel, parce qu'en fait, on peut mal vivre son célibat et se dire, ouais, je passe par un temps difficile et c'est tellement dur, Seigneur. Et des fois, de regarder un autre célibataire et un autre célibataire de la Bible, qui est vu comme un exemple extraordinaire, un modèle réel de la marche avec Dieu, de la foi en Daniel, et de se dire, bah, en fait, il est passé par ce que je suis, par le même chemin, mais en fait, c'est pas vraiment le même chemin. Son chemin à lui, oh là 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 là, il est tellement plus difficile. Et le bel exemple que cela nous donne, d'aller un peu, de considérer le contexte historique et ce qui s'est passé vraiment pour Daniel, c'est de se dire, mais malgré tout ça, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté dans la foi. Et il a servi de tout son cœur, tout en restant vraiment obéissant au principe de Dieu, à la doctrine, au commandement du Seigneur. Et ça doit être un exemple pour nous, quelle que soit la situation par laquelle on est en train de passer. Alors, soit c'était une castration partielle, avec, je le dis, ablation des testicules, je pensais pas dire ce mot d'après inspiré un jour, et c'était beaucoup plus courant dans l'Antiquité. En fait, il y avait un meilleur taux de survie, donc avec cette castration, et ça permettait pour celle-ci encore certaines activités, certaines fonctions sexuelles réduites, mais souvent c'était l'ablation totale, donc une castration complète. À l'époque, en tout cas ça dépend des saisons, ça pouvait être plus rare parce que plus dangereux, mais c'était l'élimination totale des organes génitaux externes. Et ça, et c'est là que c'est particulier, c'est que c'était réservé aux eunuques de haut rang, de dignité royale. Et c'est exactement dans cette catégorie de personnes que Daniel va se retrouver. Alors, la procédure, c'est que c'était pratiqué par des spécialistes et avec l'anesthésie, souvent, on va utiliser de l'opium et beaucoup d'alcool dans les 2-3 jours. En fait, on va rendre ivres ces personnes. Pour Daniel, on peut imaginer qu'il n'a pas voulu le faire ou que lorsqu'il était tellement jeune, eh bien, de toute façon, on lui a pas donné le choix et on on a fait cela. Vous savez, c'est ce qui se passe à la croix. On a voulu donner à Jésus quelque chose et il a pas voulu le prendre. Et donc, à un moment, Daniel, on sait qu'il va pas vouloir se souiller avec les mets du roi. Est-ce que c'est parce que justement il se souvient, autrefois j'étais vraiment adolescent, maintenant je dis non, je ne veux pas me souiller. Et bien sûr ici, il n'a pas fait le choix d'accepter cet alcool qu'on lui est donné ou pas. Et après, bon, il y avait une cotérisation pour arrêter l'hémorragie. Il y avait un taux de mortalité de 10 à 30% pour tous ces jeunes hommes. Et c'était pas juste un, il y en a eu énormément des personnes qui sont passées par là. Et il y avait une récupération qui était longue aussi, 2 mois ou même plusieurs mois, avec des soins qui étaient intensifs pour que la personne, bien, il n'y ait pas d'infection, etc., etc. Par rapport à Daniel, le scénario possible, hein, voilà, le scénario possible, c'est que donc, on voit dans, il a été déporté en environ 605 avant le Seigneur, il avait entre 14 et 16 ans, il est arraché de sa famille, emmené à Babylone, et au premier mois, on l'a lu ensemble, il est confié au chef des eunuques. C'est là qu'ils étaient sélectionnés dans les premiers mois, c'est là qu'on pratiquait directement la castration. Avant la formation de 3 ans que Daniel va avoir, il est évident qu'il est passé par cela. Il y avait une récupération, comme on l'a dit, de plusieurs mois, et il va passer par ces 3 ans d'éducation parmi les sages, pour devenir sage parmi les sages, l'éducation babylonienne avec la langue, les lettres, la culture, etc. Il va commencer son service, son ministère à l'âge de 17-19 ans, à être au service du roi. Et dans Daniel 1:21, il est écrit « Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus ». Et ça va être un ministère total d'environ 70 ans. De l'âge de 15 ans jusqu'à environ 85 ans, il va être au service du roi. Mais plus qu'au service du roi, il va être au service de Dieu. Alors cette castration, il y avait beaucoup de conséquences. Le fait de subir cette chose-là, avait des conséquences physiques, psychologiques, même spirituelles. L'une des conséquences physiques, c'est que, puisqu'on faisait ça lorsqu'ils étaient jeunes, c'est qu'ils avaient une voix très souvent, et c'est documenté, il y a beaucoup de rapports, etc., qui restait aiguë, ou alors avec un sens assez particulier, si c'était fait avant la puberté, absence aussi de pilosité, hein, donc des poils, etc. C'était des gens qui avaient peu de poils, on peut le voir dans différentes histoires, bibliques ou non, hein, surtout dans les contextes historiques. Donc pas de barbe, il pouvait avoir aussi une tendance à l'obésité. Quand tu vis cela, bien sûr, ça a un effet sur tout ton être. De l'énergie aussi, il pouvait avoir de l'énergie qui était un peu réduite. Et étonnamment, ça pouvait te donner une espérance de vie qui était beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue. Il y avait des conséquences psychologiques, bien sûr, parce que c'est un trauma, hein, un traumatisme profond. C'est une mutilation à l'adolescence. Et au moment le plus crucial de son développement identitaire. Je fais une parenthèse avec toi qui as peut-être vécu un abus sexuel. Au moment où tu te développais, au moment où tu découvrais aussi, eh bien, tout ce qui est et tout ce qui allait devenir plus tard du domaine de la sexualité, à ce moment-là, on t'a volé. À ce moment-là, on t'a pris quelque chose et ça a créé un traumatisme. Au moment de ton développement identitaire, eh bien, on t'a fait perdre quelque chose. On sait que dans plusieurs pays, nations encore, eh bien, il y a ces excisions, ces choses terribles qui peuvent se passer. Et tout ça, eh bien, un viol, un abus d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, ça a forcément des conséquences. Mais nous reconnaissons le Seigneur comme étant celui qui guérit de ces conséquences et qui transforme le mal en bien dans le sens où il va racheter ce qui s'est passé pour en faire un témoignage de la fidélité du Seigneur malgré ce que j'ai pu vivre et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ce sentiment d'humiliation, de mutilation, il est loin de sa famille, dans un pays païen ennemi, avec la conscience aussi d'être exclu, on va le voir, spirituellement. Et on parle même pas de la violence de l'acte avec des douleurs extrêmes, c'était des douleurs apparemment extrêmes. C'est pas choisi, mais c'est subi. Il y a des conséquences spirituelles aussi, puisque dans Deutéronome chapitre 23, verset 1, il est écrit « Celui dont les testicules ont été écrasés », là on est dans la loi, hein, purement je t'ai dit que c'est une alliance nationale, etc., on est dans la loi, « ont été écrasés ou l'organe génital coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel ». C'est pas le verset que tu lis tous les jours, hein, pour être édifié dans ta marche avec le Seigneur, mais c'était des réalités de l'époque. Et donc il y avait une réalité spirituelle, c'est que celui qui avait les testicules écrasés ou l'organe génital coupé, il pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Aujourd'hui, on comprend pas ces choses, on comprend pas le principe, etc. Bon, on n'ira pas dans ce principe peut-être un autre jour, mais ça veut dire que il a vécu cela, et donc pour lui, il y avait aussi une forme d'exclusion spirituelle. En gros, je peux même pas aller là, dans l'assemblée d'Israël. Je peux pas aller dans le temple. Et ce qui est fou, c'est que malgré tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il a pu vivre, il est resté fidèle au Seigneur. On va lire un autre texte dans Ésaïe chapitre 56. On sait que donc le roi va donner l'ordre à Akpenaz, là, le chef des eunuques, d'amener les enfants d'Israël. Et Ésaïe va prophétiser justement sur ses descendants d'Ézéchias. On prendra de tes fils pour faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ça avait été prophétisé comme une malédiction. Mais Daniel n'a pas vécu une malédiction. Dieu a racheté la situation. Il n'était pas, lui, maudit. Mais il est en train de vivre, d'une certaine manière, eh bien, une prophétie qui avait été faite plus tôt. On lit dans Ésaïe chapitre 56 avec Marie.
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec. » Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance.
Une petite pause, Marie. Mm-hmm. Il dit aux eunuques qui garderont mes sabbats. J'aimerais dire aux célibataires qui garderont mes sabbats. On peut le relire donc au verset 4.
Car ainsi parle l'Éternel aux célibataires qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas.
Ça a été le cas pour Daniel.
Et les étrangers qui s'y attacheront, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière, leur holocauste et leur sacrifice.
Amen. On peut s'arrêter ici. Amen. Merci Marie. Le jugement va devenir une bénédiction par la fidélité de Daniel. En fait, ici, il y a un rachat. Ésaïe va promettre une rédemption spéciale pour les eunuques. Ok, les eunuques, vous êtes en train de vivre un jugement, vous êtes amenés à Babylone, etc. Mais il y a un rachat. Ne dites pas « je suis un arbre sec ». L'arbre sec, tu comprends l'image ? L'incapacité de donner la vie, l'infertilité. Ça, c'est... Et Dieu leur dit « non, non, dis pas que tu es un arbre sec. Dis pas que tu es éloigné de mon peuple. » Non, je te bénirai. Je te donnerai dans ma maison un nom préférable à beaucoup, à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Daniel va servir le Seigneur pendant environ 70 ans. 70 ans de service. Déporté vers l'âge de 15 ans. Meurt à environ 85 ans. Il n'y a pas une seule mention d'épouse, d'enfant, de famille, donc de descendance, de mariage. Dans un livre qui couvre 70 ans de vie, aucune de ces choses. C'est un contraste révélateur quand un personnage biblique a une famille, et surtout un personnage majeur, c'est toujours mentionné, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, mais pas Daniel. Pas Daniel. Daniel va avoir des visions nocturnes, il sera seul, il n'y a pas sa femme à côté de lui. Il voit des songes, des rêves. Il se réveille, il est seul avec Dieu. Personne pour le consoler après des visions traumatisantes qu'il va recevoir même. Un prix réel du célibat de Daniel. Ça change notre compréhension de sa vie, des cicatrices qui étaient là dans sa vie. La mutilation des choses physiques qui vivaient au jour le jour. En restant fidèle au Seigneur. C'était pas un choix spirituel qui était volontaire au départ. Le choix spirituel, comme Paul par exemple, qui a choisi, c'était un don. Lui, il n'a pas choisi, il a subi. Mais ayant subi le célibat forcé par la mutilation, il va faire le choix de marcher avec le Seigneur et de rester fidèle à Dieu et d'être digne de cet appel. Il s'est décidé à se consacrer au Seigneur, étant passé par quelque chose qu'il n'a pas décidé. C'est une foi héroïque. Alors que Deutéronome disait qu'il était exclu, Ésaïe dit que non, Dieu lui donne un nom éternel. Sa mutilation, son témoignage de vie, l'abus qu'il a vécu, est devenu un témoignage. On pensait qu'il aurait été exclu, mais il a été inclus par le Seigneur. Alors je termine en disant ceci. Je savais que j'aurais plus de choses à partager avec vous, avec toi cette semaine. Il aurait pu se révolter contre Dieu. Comment t'as permis ça? Pourquoi moi? Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu abandonner sa foi juive en Dieu. Il aurait pu accepter les dieux babyloniens. Il aurait pu vivre dans le désespoir en disant « Je suis un arbre sec, il n'y a pas de vie, je ne donnerai jamais la vie. » Et malgré tout, oh c'est fort, 70 ans de fidélité. Il a reçu les visions les plus profondes de l'Ancien Testament. Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Il refuse la nourriture impure. Même après son trauma, il aurait pu se dire « Ok, allez, vas-y. » Tu sais, quand tu as vécu un trauma, c'est comme quand quelqu'un va jeûner pendant longtemps. Après, le corps, il veut manger. Quand tu as vécu un trauma, ta chair va essayer. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup qui ont vécu des viols et des abus vont demain être des violeurs ou entrer dans une vie de sexualité débridée. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas à vivre les conséquences de ce trauma. Que tu n'es pas à vivre les conséquences de ce qu'on t'a dit à propos du célibat. Il continue de prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il est seul. Il n'y a pas sa femme. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'enfant. Quelqu'un, on pourrait penser pour le déranger. À un moment, je me disais, quand Eden sera grande, etc., j'aurai plus de temps pour me consacrer. Je m'étais imaginé dans ma tête que finalement, à un moment, je me suis dit, voilà, j'aurai plus de temps. Et en fait, non. C'est pas les gens qui sont autour de toi qui peuvent t'empêcher ou pas, mais en tout cas, pour lui, dans son célibat, tu sais, quand t'es célibataire, tu peux avoir plus de temps, Et malheureusement, ce temps, souvent, il est pas utilisé forcément pour les meilleures des choses. Il va jamais se compromettre. Jamais. Avec l'idolâtrie. Alors, la fidélité de Daniel n'était pas basée sur ce que Dieu lui avait donné. Un mariage. Mais sur ce que Dieu était. Il n'est pas resté fidèle au Seigneur parce que Dieu lui aurait donné des bénédictions. Il est resté fidèle au Seigneur à cause simplement de qui est Dieu. Peut-être que tu n'as pas été castré comme Daniel. Peut-être que tu te sens mutilé, toi, par contre, par ton célibat ou par autre chose. Daniel nous montre que même la plus violente des mutilations ne peut pas te séparer de Dieu. Parce que Dieu rachète même ce que les hommes détruisent. Ce trauma n'est pas la fin de ton histoire. Père, je prie pour ce frère ou pour cette sœur, particulièrement aujourd'hui pour ceux qui ont été traumatisés par l'abus sexuel ou ceux qui, d'une certaine manière, commencent à être traumatisés par le célibat qui dure depuis si longtemps, des paroles de malédiction, des paroles de leur maman qui a dit « Mais si tu te maries pas, t'es la honte de la famille » ou du père qui a dit « Mais qui regarde sa fille comme étant une fille de seconde classe ou un enfant de seconde classe. » Père, au nom de Jésus, nous brisons la malédiction. Les malédictions, Père, qui n'ont pas de sens, ne peuvent rien produire. Au nom de Jésus, je déclare la bénédiction du Seigneur sur toi. La gloire de Jésus sur toi, la puissance de Dieu sur toi. Élie, on a parlé d'Élie hier, il était seul avec Dieu, mais il a vécu la gloire du Seigneur. La création s'est soumise à lui, recevant les corbeaux pour le nourrir, le fleuve pour l'abreuver, multipliant la nourriture et parlant au ciel à la pluie de s'arrêter ou de tomber et de descendre. Père, je bénis mes frères et mes sœurs. Il y a une grande bénédiction sur eux. Il y a une grande grâce sur eux. Oh, il y a une gloire sur eux. Père, ils sont privilégiés de te connaître, de marcher avec toi. Je bénis leur vie. Je bénis leur corps au nom de Jésus. Il y avait des conséquences. Pour Daniel, dans son corps, il y a peut-être des conséquences pour une femme aujourd'hui dans son corps. Mais au nom de Jésus, j'appelle ta gloire, Seigneur.
toi qui connais toutes les circonstances, qui connais toutes les histoires de vie. Glorifie ton nom. Et tends ta main, Seigneur, pour bénir, pour guérir, pour toucher, pour relever et pour faire de ces hommes des Daniel, de ces femmes des Esther. Jésus, des ânes qui se tiennent dans le temple des Élisabeth, qui se tiennent dans le temple à te servir, à glorifier ton nom. Que ta gloire se manifeste, merveilleux Jésus-Christ, et que ton peuple soit fidèle. Fidèle jusqu'à la fin, malgré les coups, malgré les circonstances contraires, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions et envoyez votre témoignage sur l'application Prière Inspirée et sur emcitv.com/je-témoigne.